C'est Matt dans ta radio.
Et c'est Parlons Rugby. Bonjour Damien.
Bonjour Mathieu.
Alors Damien, Parlons Rugby, hein, c'est une émission concernant la Coupe du Monde de rugby. On va parler rugby et aussi avec la venue du Chili à Perros-Guirec. Alors justement, le Chili à Perros-Guirec, on va en parler puisqu'on a rencontré, c'était mardi Damien, Javier Esman, seconde ligne de l'équipe chilienne. Donc on l'a rencontré, donc on y a posé pas mal de questions, aussi bien sur lui, comment il a commencé le rugby, mais aussi comment ça se passe, hein, cette première Coupe du Monde pour le Chili, et puis l'acclimatation aussi du côté de Perros-Guirec. On va parler de tout ça pendant toute cette demi-heure. On va revenir aussi sur le fait que les extraits sont parfois un petit peu compliqués à entendre, puisqu'on a eu des difficultés. Alors, on a l'impression que c'est un brouilleur qui était quand on a été enregistré. On était du côté de l'Agapa. Et du coup, eh bien, on va retrouver donc, toute cette interview de Javier Esman. Et puis, en fin d'émission, Damien, on fera un point sur le premier match de l'équipe de France. C'était donc vendredi dernier contre la Nouvelle-Zélande.
Absolument, et puis on parlera également, on fera un petit point également sur le second qui a eu lieu hier soir face à l'Uruguay avec une victoire poussive.
Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis on reviendra aussi peut-être sur, on va revenir dans l'interview sur le match du Chili, leur premier match contre le Japon. Alors on va revenir sur ce moment historique pour le Chili, mais aussi pour la Coupe du Monde du rugby. Beaucoup d'émotions au moment des hymnes, beaucoup d'ambiance dans les tribunes où le Chili a été bruyamment d'ailleurs encouragé. Est-ce qu'on peut refaire donc du coup un petit peu ce point sur ce match, Damien ?
Oui, alors avant de faire un petit peu l'analyse de ce premier match du Chili en Coupe du Monde, ce que je te propose, c'est de dire un petit mot sur le poste de notre invité. Ça nous permettra d'expliquer un petit peu aux gens qui connaissent mal le jeu, les différents postes sur le terrain, parce que voilà, il y a 15 joueurs sur le terrain avec des postes qui sont différents, soit singuliers, soit doubles, et donc ça peut être intéressant d'en parler un petit peu. Donc Javier Esman, en fait, est une deuxième ligne. Donc un deuxième ligne, ça fait partie des avants. En fait, le monde du rugby, j'ai envie de dire, se divise en deux mondes, celui des avants, numéro 1 ou numéro 8. Les avants sont responsables de la conquête du ballon, c'est-à-dire les phases, ce qu'on appelle également phase statique, de mêlée, de touche et de coup de pied de renvoi.
D'accord.
Donc leur job globalement, c'est justement de récupérer le ballon, de conquérir le ballon, de manière à ce que le ballon soit ensuite exploité par la ligne d'attaque, c'est-à-dire globalement donc ce qu'on appelle la ligne de trois quarts. Donc la ligne de trois quarts, ça va du 9, donc c'est 7 joueurs, hein, du 9 au 15, avec une petite spécificité sur le numéro 9 et le numéro 10 qui sont les stratèges, les conducteurs du jeu, donc le 9, le demi de mêlée, et le 10, le demi d'ouverture. Donc si je reviens à ces avants, il y a trois lignes assez naturellement. La première ligne, en fait, qui est constituée des deux piliers de chaque côté, du talonneur au milieu, qui affronte notamment sur la phase de mêlée, qui est en vis-à-vis direct avec, ouais, avec son adversaire.
C'est les plus costauds en général qui sont là.
Voilà, c'est plutôt la première ligne. Alors le talonneur, il peut être un peu moins costaud, mais en effet, notamment le numéro 3, le pilier droit, c'est un joueur qui en général est très très costaud, très solide, parce que il subit une énorme poussée à la fois donc face à lui, également derrière lui, puisqu'en fait les deux deuxièmes lignes, donc c'est le poste de Javier Esman, les deuxièmes lignes en fait sont deux et poussent derrière la première ligne, derrière, okay, les piliers talonneurs, voilà, de manière à mettre un maximum de poussée, de pression, encore une fois, obtenir le gain du ballon sur la mêlée. Et puis ce paquet d'avant, comme on dit, est complété par la troisième ligne qui encadre en fait le tout. Donc on pilier, enfin première ligne et deuxième ligne, on parle en général du 5 de devant, pour le 10 aussi un petit peu des troisième lignes. Les troisième lignes, c'est eux qui font un petit peu le lien entre justement les avants et les trois quarts, parce que par exemple sur une mêlée, en fait, dès que le ballon sort, joueurs, c'est les premiers, parce qu'ils, voilà, c'est les premiers à sortir de la mêlée, parce qu'il n'y a rien qui les gêne. En fait, ils sont tout de suite, on va dire, opérationnels.
Ouais.
Donc voilà, c'est ceux qui assurent le lien entre les avants et les trois quarts. Voilà. Donc c'est juste pour situer un petit peu le poste de Javier Iceman. Donc en général, juste pour finir là-dessus, les deuxièmes lignes, c'est également, on les reconnaît assez facilement dans une équipe de rugby, hein, pour ceux qui ont eu l'occasion ou qui vont avoir l'occasion d'aller voir les entraînements ouverts du Chili au stade Yves Le Janoux. Ce sont les plus grands joueurs, hein, parce que c'est également c'est eux qui sautent en touche et qui récupèrent le ballon sur les coups de pied de renvoi. Donc c'est en général des joueurs qui sont très grands et qui sont également très costauds, hein, puisque Javier Iceman, voilà, à vue de nez, c'est à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres et 120 kilos. Donc voilà, c'est des beaux bébés, comme on dit.
J'ai fait une photo à côté de lui, je paraissais un petit peu ridicule. Hein. Et pourtant, on me dit des fois que je suis grand, mais alors là, pas du tout. Justement, on va revenir donc sur cette interview donc, qui a eu lieu à l'AGAPA. J'y ai demandé hein, dans un premier temps.
Je reviens juste sur l'analyse du match parce que l'analyse du match du Chili face au Japon,
on n'a pas parlé de l'analyse du match.
Alors, ce que je voulais souligner avant toute chose, et Javier, justement, il va nous en parler dans son interview, c'est vraiment l'importance que revêtait ce match pour eux, match de leur pays. Dans cette Coupe du Monde. Donc, c'était beaucoup de pression. On peut avoir tendance à penser que, bon, finalement, le Chili a un peu de chance de se qualifier. Finalement, ils sont là en vacances, mais pas du tout. Ils ont vraiment un objectif. On les sent vraiment tendus vers cet objectif. On l'a vraiment senti avec Javier cette semaine. Et donc, il y avait quand même à gérer toute la tension qui résultait de cette première. Moi, ce que j'ai globalement noté, c'est qu'ils avaient quand même relativement bien géré cette tension. Et ce qui m'a marqué, c'est leur engagement vraiment énorme en défense. Ils nous ont impressionnés, ils sont rentrés très très vite dans le match, ils ont mis énormément d'engagement, qui est la défense est un élément fondamental du rugby, et on les a vus vraiment hyper concentrés, hyper concernés, et mettant énormément d'agressivité dans les phases de combat. Et par rapport à ça, on peut vraiment dire, et je pense que je suis allé un petit peu sur les réseaux sociaux, et puis je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça. Ils ont vraiment fait honneur à leur maillot et honneur à leur sport. Alors après, en termes de stratégie et de rugby, parce que c'est une équipe qu'on n'a évidemment pas l'habitude de voir jouer, de voir jouer régulièrement. Dans une première partie en début de match, je trouve qu'ils ont beaucoup tenu le ballon. J'ai posé la question à Javier, ils ont énormément tenu le ballon, et on avait l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment envie de le rendre aux Japonais. Donc je lui ai posé la question si c'était une stratégie sur le match. Il nous a dit que c'était plutôt leur manière de jouer, d'essayer de beaucoup tenir le ballon, ne pas trop le rendre. Et puis ensuite, ce qui a été intéressant également, c'est qu'ils ont tenté beaucoup de choses. Ça fait partie des choses. Donc je parlais tout à l'heure de l'engagement, également le fait de prendre des risques, de tenter des choses en attaque. Ils en ont pris. Et d'ailleurs, c'est eux qui marquent le premier essai, qui est forcément est historique. Et je pense que par rapport à ces deux éléments-là, c'est-à-dire beaucoup d'engagement en défense et le fait de prendre des risques, ils ont vraiment conquis le public de Toulouse. On a vu des papiers cette semaine comme quoi le Chili était véritablement l'équipe coup de cœur de ce début de Coupe du Monde. Donc maintenant, ça va être à eux de confirmer. Il leur reste encore trois gros matchs avec la fatigue qui va s'accumuler. Ça ne va pas être simple, mais je peux vous dire qu'ils sont extrêmement concentrés pour ce prochain match-là qui s'annonce pour eux face au Samoa.
Face au Samoa, ouais. Donc on va en parler de tout ça. J'ai demandé donc dans un premier temps à Javier son histoire personnelle avec le rugby.
Mon père était joueur, entraîneur, manager. Il a fait un peu tout dans mon club à Santiago. Et moi, j'étais au lycée français, que c'est le seul lycée français au Chili qui n'a pas de rugby, celui de Santiago. Alors j'ai commencé dès l'âge de 7 ans à jouer au rugby dans le même club auquel appartient mon père.
J'y ai demandé ensuite comment il était arrivé dans l'équipe chilienne et si le fait d'être très grand ça aidait.
Être très très grand et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Alors, dès cet âge, ils m'ont déjà observé et j'ai commencé à faire tous les procès des sélections jeunes au Chili.
Après, on est revenu donc avec Javier hein, sur le premier match contre le Japon dimanche dernier à Toulouse et sur son analyse du match.
Les opposants de ce niveau, c'est la première fois du Chili dans une Coupe du Monde. Alors on savait que ça allait pas être facile. On est content parce que dans certains moments du match, on a pu faire notre jeu, on a pu montrer ce qu'on est capable. Mais bien sûr, on espérait un résultat un peu plus serré. On espérait, bien sûr, on rentre toujours à gagner. Mais c'était un peu difficile dans cette occasion. On n'a pas pu faire un meilleur match.
Et puis, eh ben, comment finalement ils avaient géré aussi hein, la pression par rapport au monde hein, dans les tribunes, hein, puisqu'ils n'ont pas l'habitude forcément d'avoir autant de monde lors de leur match.
15 000 personnes, c'était le maximum dû au Covid. Les autorités au Chili ne laissaient pas plus de public. Et c'est la première fois devant 30 000 personnes, un stade complètement plein. Mais on était préparé pour être dans cette situation. On a qualifié à la Coupe du Monde il y a plus d'un an. Alors on savait quelles étaient les conditions qu'on allait affronter, je sais pas comment on dit, des fois j'ai des difficultés pour retrouver les mots, dans cette Coupe du Monde. Avoir un peu plus le ballon, c'est une équipe très très rapide et l'une des meilleures manières de défendre, c'est d'avoir l'aval. Et on a essayé de faire ça, par certains moments du match, on a pu, mais finalement le rythme du Japon nous a surpassé.
Javier, hein, d'ailleurs, Damien, qui parle très très bien français. Hein.
Absolument, absolument. Après, je l'ai ensuite interrogé sur leur stratégie. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le fait qu'ils avaient beaucoup tenu le ballon en première mi-temps, avec le sentiment qu'ils ne voulaient pas le rendre aux Japonais. Donc, est-ce que c'était la stratégie qui avait été adoptée en début de match? Et aussi le fait qu'ils avaient également beaucoup joué en tentant des choses parfois risquées.
C'est un peu... notre jeu en général depuis quelques ans d'avoir la balle et d'essayer de défendre de cette manière, et bien sûr on a essayé d'attaquer et on n'a pas eu peur, parce que quand on est à ce niveau et si tu proposes pas un peu plus, tu prends les 100 points comme c'est d'arriver d'autres équipes dans sa première Coupe du Monde. Par exemple, je sais pas, le Portugal en 2007 ou d'autres exemples que je te pourrais donner.
Après, Damien, on est rentré hein, dans le match contre les Samoa qui a lieu. Alors, c'est aujourd'hui à Bordeaux le match ?
Alors non, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est demain.
C'est demain. Demain contre les Samoa du côté de Bordeaux. Donc c'est maintenant, hein, donc pour eux, c'est un match important qui arrive, les Samoa, parce que j'ai envie de dire peut-être, Damien, c'est celui-là qu'il faut gagner, sinon après ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hein.
Bah après c'est l'Argentine, enfin c'est l'Angleterre d'abord, l'Argentine ensuite, donc c'est les deux favoris, les deux gros de la poule. Donc on va dire que ce match contre les Samoa, c'est certainement un match clé pour eux.
Alors j'ai demandé hein, comment ça se passe aussi à leur semaine intermatch.
Dimanche et maintenant on joue un samedi. Alors le principal focus, le principal qu'on doit faire, c'est récupérer. On fait un match aussi dur que les Samoa, c'est une équipe très physique. Et ça va faire chaud. La semaine dernière, il faisait très très chaud, environ 35 degrés, je pense. Alors le principal objectif de cette semaine, c'est de récupérer tous les joueurs pour être dans le meilleur état physique ce samedi. Mais maintenant, bien sûr, le match de Samoa, c'est un ennemi, disons, qui est très très important dans son physique, mais c'est aussi ce qu'on propose un peu nous en Amérique du Sud.
Et puis on va essayer de savoir un petit peu quel est leur objectif hein, sur cette Coupe du Monde.
Le premier objectif, c'est d'être compétitif, d'être capable de jouer contre les équipes qu'on a joué, qu'on va jouer. En plus, il y a l'Argentine, l'Angleterre qui sont des équipes tier 1, et le Japon et le Samoa, qu'on pourrait dire, ce sont les meilleures équipes du tier 2. Alors, d'être capable de jouer à ce niveau. Et comme je t'avais dit avant, de ne pas prendre les 100 points comme d'autres équipes ont fait, de démontrer ce qu'on travaille en Amérique du Sud, ce qui travaille à Sud-América Rugby, où l'Uruguay, l'Argentine, nous, le Brésil et tous les équipes sont en train de monter ce niveau, d'être compétitif et de pouvoir jouer dans des instances internationales comme une Coupe du Monde.
Donc ensuite, la question que je lui ai posée, c'est que bon, on les a vraiment vus s'envoyer, comme on dit dans le jargon, comme des chiens en défense, et nous laissant penser qu'ils allaient probablement ne pas tenir le rythme sur la durée du match. Et cette grande débauche d'énergie et cette grinta, je lui ai demandé si c'était la marque de fabrique du rugby sud-américain.
Bien sûr, surtout ben c'est l'Argentine un peu qui marque les façons de jouer en Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'entraîneurs d'Argentine et l'Uruguay et le Chili ont suivi un peu cette ligne de travailler très très bien sur la mêlée, sur la touche et je sais pas comment dire en français le mol si on dit comme ça aussi et surtout sur les plaquages, d'être très très dur, d'aller en haut, de jouer un peu un jeu un peu plus physique pour être capable de jouer contre d'autres équipes qui sont un peu plus rapides, qui font un jeu un peu plus ouvert que nous et d'être capable d'affronter ces équipes avec un jeu plus physique pour être au niveau des matchs.
Alors on va parler ensuite, Damien, de leur acclimatation finalement à Perros-Guirec, parce que donc ils sont venus à Perros, ils ont choisi Perros-Guirec, on en a parlé la semaine dernière avec Alain. Et bien là, il va nous expliquer qu'ils sont très très contents à Perros-Guirec.
Très content d'être ici, la ville nous a reçus de la meilleure manière possible, les installations pour entraîner sont vraiment d'un niveau international, le terrain, la salle de musculation, et on est très heureux aussi d'être ici face à la plage, l'océan c'est très bon pour récupérer, et tout le monde qui nous a vu ici, et je pense qu'ils sont contents de nous avoir ici, il y a beaucoup de monde aux entraînements quand ils nous voient sur la plage ou quand on va un peu se promener, et je pense qu'ils sont contents et nous aussi.
Et puis ils font des activités forcément en dehors de leur séance de rugby.
Un peu de tout, très intense. Alors on essaie de dormir, notre temps pour la récupération, des massages, la piscine avec du froid. Ici à l'hôtel, on a aussi un spa. Alors on a la piscine tempérée, on dit, ouais, la piscine chaude. Mais certaines fois, il y a aussi des moments pour un peu sortir, voir un peu la mer, se relaxer et tout ça.
Alors moi, la question que je lui ai posée après, c'est que bon, on voit quand même qu'il y a pas mal de sécurité autour d'eux. Là, avec Mathieu, on a un petit peu galéré pour réussir
pour réaliser
cette interview. Et donc, je lui ai posé la question de savoir si, malgré tout, ils avaient un peu de temps libre pour se balader et pour profiter.
Je pense que quand l'équipe comme nous sommes tous ensemble, c'est très strict par des raisons de sécurité. Je pense que c'est un événement sportif de cette magnitude et très important pour les autorités, surtout qu'ils sont en train de préparer et l'occasion de l'année prochaine où on va avoir ici les Jeux Olympiques à Paris. Et ils sont en train d'essayer des protocoles de sécurité et tout ça. Mais aussi, on a l'opportunité de sortir en petit groupe et de pouvoir revoir les paysages ici à Perros.
Je voudrais revenir sur une petite anecdote. Vous avez eu des maillots de bain roses. Ça a été offert par la ville ?
Oui, c'est la ville qui nous a offert les maillots de bain roses. Je pense que c'est le slogan de la ville, la vie en rose. Et ça, apparemment, sur les réseaux sociaux, ça a explosé avec nous, utilisant ces maillots de bain, mais ils sont très très pratiques pour aller à la mer et pour rentrer dans les piscines avec des glaçons et tout ça. Je sais pas comment on dit les piscines pour la récupération, ouais.
C'est votre club, Damien, je crois, qui avait mis en place ce maillot de bain.
Oui, c'était la vidéo de rentrée du club là, qui avait été fait l'an dernier là, avec voilà, des gars en slip, donc jaune et bleu pour nous, ouais. Qui s'étaient baladés à Pérouse, qui avait fait le buzz également. Ouais.
Alors ensuite, on va parler d'histoire et de sociologie, hein, du rugby en Amérique du Sud et au Chili. On a parlé, hein, de l'histoire du rugby. Quand le rugby est-il arrivé en Amérique du Sud, au Chili en particulier, mais aussi sa place aujourd'hui par rapport aux autres sports nationaux.
Avec les Anglais, il y a, je sais pas, plus de 100 ans, je pense, qui date de beaucoup, beaucoup d'années de rugby au Chili. Mais c'est sans doute dans les dernières 10 ans qu'il y a. Il y a beaucoup. Le championnat du Chili, par exemple, sa première saison, c'est en 1945, je pense. Alors, il y a une grande, grande histoire, mais sans doute marquée par le manque d'organisation. Et de quantité de personnes, parce qu'avant c'était surtout à Viña del Mar et à Santiago. Maintenant il y a du rugby de la partie nord du Chili jusque tout au sud. Alors ça marque un peu ça, et ce qui a permis de nous mettre ici à la Coupe du Monde.
Et quelle est la place du rugby au Chili par rapport aux autres sports ?
Sans doute, ce qu'on cherche, nous, c'est d'être le deuxième sport au Chili. Le foot est encore le roi des sports au Chili, mais par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, le tennis est très fort, mais sans doute le rugby appelle une grande quantité de personnes.
Qu'est-ce que l'on peut attendre finalement de cette participation à une Coupe du Monde pour le développement du rugby chilien ?
Ce qu'on en parle, cette Coupe du Monde va changer le rugby chilien pour toujours. Ce que l'on cherche, c'est un peu planter ce que d'autres personnes vont recueillir dans les années à venir. Sans doute pour les enfants, c'est très important de nous voir. Nous, c'est la première génération des rugbymen professionnels au Chili. Et c'est très important de nous voir dans des instances internationales, dans des événements comme celui-là, et pour leur permettre surtout de rêver d'être un jour ici. Et ça appelle beaucoup plus de jeunes.
Du coup, moi, ensuite, ce qui m'intéressait également de savoir, c'est que la sociologie un peu du rugby chilien, donc on sait que le rugby sud-américain, enfin c'est l'image qu'on en a un petit peu en Europe, c'est un rugby plutôt de classe, comme c'est notamment le cas en Argentine, l'Argentine étant un petit peu le leader du rugby sud-américain, donc c'est-à-dire un sport plutôt destiné à des classes éduquées, et je lui ai demandé si c'était également le cas au Chili.
Continue à être un peu comme ça, mais moins, beaucoup moins. Dans les dernières 20 ans, 10 ans, il y a eu beaucoup de croissance du rugby, surtout dans la banlieue de Santiago. Et ça a permis d'avoir beaucoup plus de clubs et une base beaucoup plus grande de rugbymen. Et maintenant, par exemple, le championnat du Chili, il y a 2 divisions nationales. Et ensuite, par exemple, le championnat de Santiago a 4 divisions en plus. En debat, où il y a des clubs de tous les partis de Santiago, et dans les régions, c'est comme ça aussi. Et maintenant, encore, ce sont les clubs les plus grands, un peu plus d'élite, comme tu appelles, qui sont en première division. Il y a un peu des difficultés des clubs plus petits pour monter. Et normalement, par exemple, les joueurs qui sont dans ces clubs partent dans des clubs plus d'élite pour pouvoir jouer à un meilleur niveau. Mais sans doute, dans les années à venir, ça va changer. Par exemple, en Argentine, si tu vois la Coupe du Monde 2007-2011, 20 joueurs sur 30 étaient des clubs de Buenos Aires, des plus grands clubs, plus d'élite. Il n'y avait que 10 qui étaient de région. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, il n'y a que 5 ou 7 de Buenos Aires et tout le reste est des régions. Et ça, c'est partie du développement qu'on est en train de faire, surtout nous, à être ici, si on met par rapport, par exemple, à l'Argentine en 2007.
Bah, on va finir, Damien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Coupe du Monde ?
Je sais pas, c'est vraiment... Pour nous, c'est important d'être ici, de pas seulement d'être capable de jouer avec des rivaux de ce niveau, mais aussi de pouvoir avoir un bon séjour ici, de pouvoir, je sais pas comment on dit, disfrutar, je sais pas comment on dit disfrutar, enjoy, de profiter de cette expérience qui est très belle et qui va rester avec nous pour toujours.
On remercie beaucoup Ravière. On s'excuse aussi pour le son. Pourtant, El Damien, on était dans un petit salon, tranquille, sans bruit. Mais apparemment, il y avait quelques brouilleurs du côté de l'AGAPA. On s'excuse vraiment pour le mauvais son. Damien, on va revenir d'ici quelques instants pour faire un point sur toute l'actualité de la Coupe du Monde. On fait un point sur l'actualité du rugby. C'est juste après l'harmonie de Pomaré dans les yeux d'Émilie. C'est l'hymne officieux de cette Coupe du Monde. L'harmonie de Pomaré avec dans les yeux d'Émilie. Je pense, Damien, un jour dans Parlons Rugby, là, on va faire un point sur toutes ces chansons festives, non ?
Bah, y en a pas mal, en effet, et celle-là, elle est en effet, comme je te disais tout à l'heure, elle est très souvent reprise dans à peu près tous les stades de rugby de France.
Alors, je crois que ça a commencé il y a 10 ans du côté du stade toulousain.
C'est possible, ouais, c'est possible.
Alors, on va parler maintenant dans Parlons Rugby après l'interview de Javier Eguesman, le joueur chilien qu'on remercie encore. On va faire un retour sur l'actualité de cette Coupe du Monde et les matchs de l'équipe de France. On va commencer donc par le match de vendredi dernier contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande. C'est historique.
Bah oui, on peut dire que la fête était belle, hein. Voilà, une belle entrée en matière de l'équipe de France. Fabien Galthié l'avait rappelé à ses joueurs avant le match. Les All Blacks n'avaient jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une première historique, le fait de les battre comme ça en match de poule. Les Français ont souffert.
Ouais, ça n'a pas bien démarré en plus.
Non, les Français ont souffert. Ils prennent un essai dès le début de match là, sur une ce qu'on appelle une première main, c'est-à-dire qu'une sortie de touche avec on se fait prendre au centre du terrain, et puis bon, derrière, les Blacks, dès qu'ils ont des ballons rapides, ils sont très très bons, avec une transversale au pied qui donne ce premier essai. Franchement, il est magnifiquement construit, ce premier essai des Blacks. On s'est dit, voilà, ça y est, c'est la magie noire, on va dire, qui est de retour. Et puis, on a laissé passer la tempête qui a duré quasiment toute une mi-temps où les Blacks ont vraiment été à l'initiative du jeu. Et puis, en deuxième mi-temps, là, par contre, on a réussi
C'est deux mi-temps, hein, on a l'impression.
Exactement, exactement.
Malgré que la France mène à la mi-temps quand même.
Exactement, alors on s'est nourri un petit peu des fautes des Blacks et on a réussi à prendre des points au pied. Et donc le fait franchement de mener à la mi-temps, c'était absolument, enfin c'était inespéré on va dire. Et puis en deuxième mi-temps, on a senti que les Français peut-être prenaient le pas physiquement sur les Blacks.
Ouais.
Et voilà, bon, il y a quand même cet essai, encore une fois, en début de deuxième mi-temps, je pense que défensivement il y a quand même quelques petites carences et on l'a vu encore hier soir ce deuxième essai qui nous replonge un peu dans le doute et puis ensuite une mainmise relative quand même de l'équipe de France avec deux essais à la clé et une victoire assez nette finalement 27-13 si ma mémoire est bonne.
C'est ça.
Donc pas de point de bonus défensif. Je rappelle que une équipe peut marquer un point de bonus défensif si elle finit à moins de 7 longueurs de son adversaire. Donc on n'a pas laissé de bonus défensif aux Blacks. Donc ça c'est une bonne chose également.
Et les points offensifs, c'est quand ils marquent 4 essais.
Exactement. Donc à partir de 4 essais, vous marquez un point de plus. Donc la victoire est à 4 points. Si vous prenez le bonus offensif, vous en marquez un cinquième.
Très bien. Donc ça, c'était le match contre les Blacks. Hier, les Français ont fait un nouveau match, mais alors pas du tout avec la même équipe.
Oui, il faut faire tourner. Une Coupe du Monde, c'est long. J'imagine que ce match face aux Blacks la semaine dernière, il a évidemment laissé des traces. Donc c'est important de faire reposer un petit peu les joueurs. C'est également important quand on gère un groupe, donc il y a 33 joueurs dans la délégation française, dans toutes les délégations, c'est important également de faire en sorte que tous les joueurs restent concernés, y compris les joueurs qui ne sont pas amenés forcément à être dans l'équipe type.
Ouais.
Donc c'est vraiment important de leur donner du temps de jeu. On sait pas, on peut avoir des blessures. On a vu Julien Marchand, le talonneur français, qui s'est blessé la semaine dernière. Donc il faut donner du temps de jeu aux remplaçants de manière à ce qu'ils soient en capacité, s'ils sont appelés dans un match couperé, qu'ils répondent présents.
Ouais. C'est l'une des différences notamment avec le foot où en général il y a une équipe type, quelques remplaçants et puis ceux qui viennent participer à la Coupe du Monde, souvent ils restent sur le banc. Quoi.
Ouais, ça dépend. Je pense que même au foot, hein, quand on a un groupe un collectif à gérer, je pense que c'est important d'avoir l'ensemble du groupe qui reste focus sur la compétition et donc il faut faire attention de ne pas créer de trop de différence entre les titulaires en puissance et les remplaçants.
Est-ce que cette équipe française a été surprise hier par les Uruguayens ?
On aurait tendance à le penser quand même parce que ces Uruguayens, franchement, quand on voit le début du match, moi je les ai trouvés, j'ai pensé qu'on allait leur passer 50 points et puis ils ont pris confiance et puis nous je pense qu'on les a pas vraiment respectés. On voit ça notamment sur les zones de combat ou au niveau de la conservation, on mettait un seul joueur alors qu'il en aurait fallu deux voire trois pour sécuriser nos ballons. On a pris ce qu'on appelle des contre-rucks, là c'est quand on vient dans un ruck, là, quand l'adversaire vient pousser pour récupérer le ballon, on a été pris plusieurs fois. Donc ça, c'est symptomatique quand même d'un engagement un peu moyen. Donc je pense que les spectateurs français ont été un petit peu déçus par rapport à ça. On a été brouillon, on a fait beaucoup de fautes de main. Et les Uruguayens, ils ont joué leur chance à fond. On en parlait avec Ravier, le rugby sud-américain, c'est énormément de cœur. À partir du moment où ils commencent à prendre confiance, ils peuvent être dangereux. Et même au niveau des mouvements offensifs, ils nous ont proposé des mouvements offensifs qui nous ont mis en difficulté. Ils ont mis des essais. On peut leur tirer un grand coup de chapeau. Cette équipe uruguayenne, elle a fait encore une fois honneur à sa nation et à son sport.
Merci beaucoup Damien. On rappelle que les matchs de l'équipe de France sont diffusés par le club.
Absolument. Donc là, il y a une semaine, c'était au Rouzy qui avait environ 400 personnes. Et hier soir, c'était du côté du Palais des Congrès avec pas mal de monde également. Je crois que 200 personnes d'après ce que m'a dit le président. Et on remet ça la semaine prochaine donc au Palais du Congrès pour la diffusion du match face à la Namibie.
Alors là, c'est un match, on va dire, encore plus facile.
Je pense que c'est à peu près du même ordre que l'Uruguay. C'est un rugby qui est très différent. Le rugby namibien ressemble au rugby sud-africain, mais évidemment en moins fort. Donc ça sera un match un petit peu différent.
Ça veut dire que Fabien Galthié va encore faire tourner son équipe.
Alors pas forcément, parce que il y a 5 équipes par poule, donc ça veut dire que il y a un tour entre guillemets où on est exempt, on ne joue pas. Donc ça veut dire que on joue la semaine prochaine et le quatrième tour, on va dire, de cette phase de poule, on va avoir une semaine de plus pour récupérer.
D'accord.
Donc potentiellement, il peut mettre une équipe qui ressemblerait à son équipe type parce qu'elle aura encore 2 semaines pour récupérer avant le match qui sera décisif dans cette poule, qui sera le match face à l'Italie. Si on bat l'Italie, on est premier de poule et on verse en quart. Et alors, c'est ce que je disais la semaine dernière. Oui. En fait, ce qui va être hyper important et qu'on va scruter de près, nous, Français, ça va être le match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud qui a lieu, je crois, que la semaine prochaine et qui va décider du sort de cette poule-là, la poule où on a l'Afrique du Sud et l'Irlande, et voilà. Et donc nous, si on finit premier de poule, on prendra le second. Donc voilà.
Est-ce que c'est intéressant de prendre le second, ou peut-être il faudra mieux prendre le premier?
Franchement, voilà, exactement. Je rappelle, les Irlandais sont numéro 1 mondial. Les Sud-Africains font peur à tout le monde en ce début de Coupe du Monde. Je crois que tous les observateurs les voient comme c'est les tenants du titre. C'est les grands favoris également, avec la France et l'Irlande, de cette Coupe du Monde. Mais ils font peur dans le sens où ils ont un paquet d'avant qui est monstrueux. Bon, le rugby sud-africain a toujours été fait de concassage devant, avec énormément d'avancées dans l'axe. Et puis derrière, le problème, c'est qu'ils ont également beaucoup de pattes derrière, beaucoup de vitesse derrière. Donc, on va dire que la combinaison des deux, elle est détonnante. Et ces Sud-Africains, ils seront extrêmement difficiles à battre, on le sait. Mais on s'est préparé pour ça.
Et c'est ça qui est dommage, parce qu'une des 3 grandes nations du rugby actuellement sera éliminée en quart de finale.
Absolument. Donc ça laisse un petit peu de place du coup sur l'autre partie du tableau, avec des équipes qui sont un petit peu en difficulté. Je pense à l'Angleterre, je pense au Pays de Galles, je pense à l'Australie, qui peuvent malgré tout aller atteindre une demi-finale. Et puis après, à partir des demi-finales, franchement, c'est des matchs qui sont avec énormément d'enjeux, beaucoup de tension, donc tout peut se jouer. Donc franchement, ça reste quand même très ouvert, cette Coupe du Monde, même si il y a 3-4 favoris qui se dessinent au départ, c'est très long, et donc ça reste une compétition qui reste très ouverte.
Très bien, merci beaucoup Damien. Comme la semaine dernière, on a fait des prolongations, on a débordé un petit peu. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Parlons Rugby.
Merci Mathieu.